Je vais me faire la voix avant de. Je vais me faire la voix d'un certain nombre de questions qui sont arrivées sur le chat que pendant qu'Alexandre parlait, on a regroupé avant de. Je porte ces questions et ensuite, comment dire, Olivier Armand pourra intervenir s'il le souhaite. Il y a plusieurs demandes d'éclaircissement sur le fait de savoir s'il y a des distinctions genrées. Chez ces populations et que genrées à la fois par activité ou des distinctions genrées transidentitaires. Je vous livre les trois grandes lignes de questions. Je crois qu'il serait bien que vous puissiez reprendre et éclaircir un petit peu de manière rapide au moins ce que vous avez évoqué du côté du fait que les cartographies sont des topologies et donc non pas des topographies, puisqu'il y a plusieurs questions qui viennent interroger sur qu'est-ce que ça viendrait représenter, justement. Donc, ça, je vous laisserai l'expliquer. Et puis, une remarque sur la fonction du rituel qui serait à prendre. Qu'est-ce que ça gagnerait, je dirais, à la prendre dans son étymologie sanscrite du sacré. Voilà, vous avez ça un peu en vrac. Si vous voulez répondre un peu à ce que vous souhaitez, et après, Olivier.
Distinction genrée par activité, par exemple, on pense, enfin, les interprétations du fait que, comme j'ai dit, les aborigènes étaient depuis 60 000 ans en Australie au moins. Au début, il y avait une mégafaune et les hommes et les femmes chassaient ensemble. C'était aussi le cas en Europe hein, pour les mammouths. Et puis, à peu près, il y a 6-7 000 ans, quand les eaux montaient, ont séparé les îles du continent, sont arrivés des dingos. Selon les régions, jusqu'à il y a 4 000 ans. Et les dingos ont été en compétition pour le coup, en tant qu'espèce carnivore, avec le gibier que chassaient les humains. Et puis les conditions climatiques aussi menaient à l'extinction de la faune. Hein. Contrairement à certains écrits, ce n'est pas les humains qui sont responsables de la disparition de la mégafaune. Et donc, du coup, beaucoup de mythes raconte qu'il s'est instauré, donc, entre il y a 6 000 et 4 000 ans, une spécialisation entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que plutôt que de manger que de la viande qui était en abondance avec la mégafaune, face à la compétition des dingos, les humains se sont mis à manger beaucoup plus de végétaux. Et c'est à ce moment-là que, dans beaucoup de mythes, il est raconté qu'il y a une complémentarité économique qui s'installe. Les hommes vont chasser les kangourous, les émeus, donc le gros gibier, et les femmes vont chasser le petit gibier et beaucoup, enfin, fournir l'essentiel de la nourriture végétale, qui deviendra l'essentiel de la nourriture en général. Parce qu'un kangourou, quand on l'attrape, ça nourrit à peu près 30 personnes, et on n'en attrape pas un tous les jours. Enfin, c'était pareil pour une tortue ou une vache marine pour les peuples de la côte. Et donc, du coup, voilà, il y a cette spécialisation-là économique au niveau de ces activités-là. Après, il y a certains objets qui n'étaient taillés, notamment les pierres taillées, puisqu'il n'y avait pas de fer, que par les hommes. Mais les femmes faisaient aussi des objets en bois. Bon, alors évidemment, aujourd'hui, l'économie n'est pas celle-là, puisque les aborigènes, avec la colonisation, enfin, etc. Alors, transidentitaire, je n'ai pas bien compris quelle est la question. Mais peut-être que la personne veut la reposer. Quand je dis topologie, c'est les peintures donc acryliques sur le sol ou bien les peintures qu'on a vues sur le corps des femmes et les hommes en ont aussi, mais ils ont moins de motifs variés que les femmes parce que les seins se prêtent très bien à faire des peintures extrêmement complexes. C'est toujours des lieux reliés par des itinéraires totémiques, donc qui pour les Walpiri sont des itinéraires dits de rêve, mais le rêve étant penser comme quelque chose de beaucoup plus vaste que notre conception du rêve freudienne, disons, ou même jungienne. Voilà, donc ce sont des cartes à la fois géographiques, de repères par rapport à des territoires réels, des lieux réels dont ceux qui portent les peintures sont les gardiens, hein, et ont une responsabilité de gardiennage, qui a été traduit en anglais par une responsabilité de propriétaire. Mais par exemple, les Walpiri héritent de deux fonctions de rapport à la terre, Kirda par le père et Kuldungulu par la mère, et responsabilité vis-à-vis des terres des conjoints, parce qu'on ne se marie pas dans son groupe. Donc ça, au moment des revendications territoriales, c'est très important à comprendre, ça a été un enjeu parce que l'État n'a accepté qu'une seule lignée. Et donc, du coup, a présenté, soi-disant sur la base de Radcliffe Brown, qui était un anthropologue un peu qui a eu la première chaire d'anthropologie en Australie et qui aussi fondé le structuralisme anglais. Donc, n'a été accepté que la fonction de propriétaire des terres dont les gens étaient responsables par le père ou les tantes paternelles pour les femmes. Or, chaque personne est considérée en anglais, ils ont traduit ça comme ça, les Walpiri et leurs voisins. Kirda, c'est boss. Kurdungulu, c'est manager. Et on ne peut pas faire un rituel, on ne peut pas prendre soin de la terre sans qu'il y ait les deux. C'est-à-dire qu'il y ait des alliés. Des gens et du côté de la mère et du côté du père, donc des gens qui sont en situation d'alliance et pas de filiation. Voilà, donc ça a cassé ça, quelque chose du rapport à la terre qui donc s'explique non pas comme des parcelles au sens occidental qui sont découpées et bornées, mais comme des réseaux de lignes qui s'entrecroisent avec des responsabilités de gens de différentes lignes, différentes, mais qui s'inversent. De manière non symétrique à travers tout le territoire. Il faut toujours des autres. Hein? Donc, dans un groupe comme les Walpiri, qui font à peu près 4 000 personnes, il y a plus d'une centaine de totems et de lignes différenciées. Et donc, tout comme on a besoin et de kangourous, et de graines, et de vent, et de pluie.
Oui, on peut définitivement pas tout, mais c'est intéressant. Ça vient vraiment interroger des difficultés spécifiques de nos sociétés qui sont sourdes. Et ce que j'avais dans mes notes que j'ai oublié, mais je le cite comme ça, c'est ce que vous évoquez du côté de la responsabilité vis-à-vis des ancêtres, qui est un truc dont on est totalement ignorant dans nos sociétés aujourd'hui. Qui a envie de parler de ça?
Oui.
Mais Olivier, avant, je suis navré, on est obligé d'avancer parce qu'on est déjà très en retard du coup.
Oui.
Olivier, tu es là.
Oui, je viens oui, vous m'entendez, c'est bon, je viens intervenir, j'ai beaucoup apprécié. Voilà, moi, je suis biologiste, hein, donc du coup, ça résonne. Je suis situé plutôt dans la biologie, on va dire. Il y a plusieurs choses qui ont résonné dans ce que vous avez dit, et notamment cette expérience dont parlait Cyril juste avant, d'ailleurs, cette expérience de perte de repère quand on est dans un groupe, le groupe de femmes, le groupe d'hommes, là, quand on est au sein du groupe. Et ça, en fait, ça résonne, vous disiez ne plus sentir le bord de son corps. Alors ça, en biologie, c'est exactement ça. En fait, c'est une perte de proprioception. Donc, je reviens à la proprioception parce que c'est assez rigolo. Il y a des parallèles assez marrants. Et surtout, ce que ça fait, c'est que ça crée un hyper-nous, si on veut, quoi. Ce que vous disiez avec le hyper-homme, hyper-femme. Et le paradoxe, c'est que c'est quelque part la séparation qui crée cet hyper-nous. Et vous avez dit donc créer deux pôles pour faire agir les forces qui réactualisent. Alors ça c'est là ça résonne encore plus avec mon travail qui est plutôt sur la biophysique des plantes, hein. Parce qu'en effet il y a deux pôles dans tous les organismes vivants comme chez les plantes, compression et tension. Et en effet les plantes utilisent ça pour se percevoir elles-mêmes, pour faire de la proprioception. Donc en fait la séparation est nécessaire à la proprioception pour se percevoir soi-même et donc pour créer du nous, pour fabriquer du nous. Finalement, l'hétérogénéité, c'est la brique élémentaire de la fabrication du nous. C'est un petit peu contre-intuitif, mais en fait, vous l'avez dit, je pense, assez clairement. Et après, on peut se poser la question du jusqu'où on va, quoi, ou jusqu'où on va avec ce nous. Et donc là, évidemment, vous avez parlé des communs, donc on peut penser à un nous très, très inclusif qui inclut les non-humains. Ou même ce que disent les anglo-saxons, maintenant ils parlent de more than humans, de plus qu'humains. Donc c'est aussi pour dire que c'est un peu sans limite. Et alors là-dessus, donc j'ai peut-être une question un peu générale ou un commentaire, je ne sais pas. C'est en fait, c'est pourquoi, à quoi ça peut nous servir tout ça, cette fabrique du nous. Et si on va jusqu'au non-humain, peut-être qu'il y a cette idée de résilience un petit peu derrière. Et donc vous parliez d'un environnement, des déserts, des feux, donc un milieu qui peut être hostile, qui n'est pas forcément tout le temps, mais qui peut être hostile. Et là, il y a alors là, je fais référence plutôt à la cybernétique, et je terminerai avec ça. C'est la théorie de Ashby, des variétés indispensables, qui en gros dit que pour faire face au chaos extérieur, il faut avoir un chaos intérieur.
Merci.
Et c'est réciproque, en fait. C'est que pour faire face à un chaos intérieur, pour faire face à un chaos extérieur, il faut un chaos intérieur. Donc, il y a les deux qui agissent. Et donc, en fait, c'est cette idée qu'une hétérogénéité permet de se percevoir et, en fait, de aussi de faire face à quelque chose qui nous dépasse, en fait. Voilà. Donc, en fait, je ne sais pas si j'ai vraiment une question, mais c'est voilà, ça a résonné comme ça chez moi.
Moi, j'adore tout ce que vous venez de dire qui nourrit tout à fait l'actualité des savoirs autochtones, qu'ils soient australiens ou d'autres peuples. Mais là, je vais vous citer, hein, ça c'est sûr. Et en tout cas aussi, bon, quand même, pour faire la boucle, que face au chaos extérieur, il faut un chaos intérieur, c'est un peu l'idée de la chaosmos de Guattari,
Bah
les cartographies schizoanalytiques. Mais
oui.
bon, il n'y a pas que des hommes qui pensent, c'est sûr. Mais lui, il était très, très impressionné par toutes ces données australiennes que j'avais partagées avec lui au début des années 80.